Monsieur l'aîné, il y a une petite usurpation de fonction. Il est dit dans le programme que c'était un mot d'accueil de la présidence de la SCAM, que j'ai présidé pendant 4 ans, mais que je ne préside plus depuis le 20 juin. C'est Anya Unger, réalisatrice comme moi, qui a pris les rênes du conseil d'administration pour minimum 2 ans. Et je m'en réjouis, puisque autant dans ces 4 années de présidence, j'ai essayé de fluidifier les relations avec les partenaires institutionnels pour mettre un peu de convivialité, de connaissance. On se parle mieux quand on se connaît. Autant Anya, par son profil, elle est franco-germanique, elle travaille pour des télévisions étrangères. Je crois qu'elle va donner à la SCAM une dimension internationale qui parfois nous fait défaut. Et d'ailleurs, un petit point d'ordre, la SCAM s'appelle la SCAM maintenant, en un seul mot, et non pas la SCAM, puisque à l'international, SCAM, pour les anglophones, je ne vous fais pas de dessin, ça veut dire escroquerie, et c'est toujours un tout petit peu compliqué de communiquer avec vos partenaires étrangers, puisqu'on les entend comme des escrocs. Surtout que maintenant, avec les dispositifs un peu numériques, il y a des filtres qui font que les mails, parfois, ne nous arrivaient jamais. D'ailleurs, la bénédiction de notre collègue canadienne qui nous a dit « Enfin, vous changez de nom ». Donc ça s'appelle maintenant la SCAM. La SCAM, c'est quoi? Vous avez la SACD pour le répertoire de la fiction, la SACEM pour le répertoire musical et la SCAM pour tous les répertoires du réel, que ce soit le documentaire, le journalisme. Nous avons également des écrivains, des photographes, des illustrateurs. La radio est un percepteur assez important de la SCAM. C'est 124 millions, je crois, de perceptions par an, ce qui nous permet d'avoir une maison assez prospère. Je crois que les locaux parlent d'eux-mêmes. Mais cet argent, et il y a une part qui est dédiée à l'action culturelle. L'action culturelle, l'argent fléché sur l'action culturelle provient de la copie privée. Et la copie privée, pardonnez-moi ce petit saut périlleux arrière, la copie privée baisse, les perceptions de copie privée baissent depuis plusieurs années. Donc notre action culturelle baisse. Et comme quand Samuel Gantier est venu nous voir, avec ce magnifique projet de métadoc, enfin algodoc, c'est-à-dire, je ne vous fais pas de dessin, puisque si vous êtes là, c'est qu'a priori ça vous parle un petit peu. On a vu arriver quelqu'un, alors on avait là, nous aussi des espèces de pare-feu qui se dressaient. Chaque nouveau partenaire, on dit attention, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, les budgets baissent, c'est assez serré, ce qui est paradoxal parce qu'on n'a jamais eu autant de perceptions. Mais les budgets d'action culturelle baissent, donc nous pouvons de moins en moins soutenir les partenaires. Et Samuel nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'argent, et peut-être même, je peux vous en rapporter. Alors là, si vous voulez, la réaction, ça a été avec Stéphane Joseph, qui est la communication et la culture. On avait un petit peu, vous savez, quand vous faites hameçonner par des escrocs sur Internet, vous dites, oulala, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et puis il est venu, Samuel, il est venu et il nous a fait une démonstration extrêmement brillante qui nous a convaincus de rentrer dans son jeu, si j'ose dire, dans sa science. On manque de données dans nos métiers. Nous sommes auteurs, nous sommes des saltimbanques, enfin auteurs, autrices évidemment, nous sommes des saltimbanques et la réunion des saltimbanques, parfois, ça crée un joyeux bordel. Heureusement, il y a l'entreprise CAM qui nous met un peu d'ordre là-dedans, mais malgré tout, il y a quelque chose qui nous fait défaut. Je dois dire que lorsque la prescription, alors je parle de la fiction, puisque la prescription documentaire existe assez peu, mais lorsqu'en fiction je regarde un film sur une plateforme et qu'ensuite un algorithme me renvoie à quelques prescriptions, j'ai un peu tendance à dire, dans l'intelligence artificielle, ce que je retiendrai, c'est plus artificiel qu'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand même très très aléatoires qui tombent du ciel. L'intelligence artificielle est un outil magnifique, on l'utilise chaque jour, mais qui a ses limites. Et donc, quand Samuel vient nous dire, mais attendez, le documentaire, peut-être qu'il y a moyen d'éclairer les goûts, d'éclairer les pistes, d'éclairer les genres, etc., etc., ça nous intéresse. Ça nous intéresse aussi parce que, et je vais retomber sur mes pieds et puis laisser ensuite la parole à Stéphanie, ça nous intéresse parce que je vous parlais de 124 millions de perceptions, il y a de plus en plus d'acteurs dans notre écosystème, de plus en plus de. Et nos œuvres, du coup, sont de plus en plus éparpillées. Ce qui fait d'ailleurs qu'elles sont moins rémunératrices, paradoxalement. C'est-à-dire que lorsqu'on avait 3 chaînes de télévision, c'était très simple. À une diffusion était indexé un prix, minutaire qui nous permettait de percevoir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe avec l'émergence des plateformes et des réseaux, puisque nous sommes également partenaires des réseaux. La perception est beaucoup plus compliquée parce qu'il faut mixer l'exposition et la fréquentation. Bref, tout était certainement plus simple avant, mais parfois, aujourd'hui, c'est plus passionnant. Et je dois dire que le projet de Samuel nous intéresse beaucoup, comme une espèce de guide, de fil qui nous permettra, dans ce monde de plus en plus complexe de la diffusion, de nous retrouver et puis de faire venir les spectateurs pour voir nos œuvres. Je crois que j'ai certainement pas tout dit, Stéphanie, mais que tu vas rebondir allégrément. Donc je te laisse la parole. Je vous remercie.
Merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, bienvenue. Pour nous, en fait, la cinquième journée d'accélération du secteur audiovisuel que nous organisons cette année. Et on sera ravis de faire cette journée sur la découvrabilité du documentaire. Et je vous remercie de nous accueillir à la SCAM parce que c'est un véritable plaisir aussi et correspond totalement aux objectifs du CEPRIK. Pour moi, je suis économiste de la culture, voilà, spécialisée sur l'audiovisuel. Et dans le cadre du projet du PEPR dont je vais vous parler, je suis coordinatrice en fait, du secteur audiovisuel avec Géraldine Pox, qui est là, donc responsable scientifique, donc je sais pas, responsable du département scientifique de l'INA pour faire court, mais on revient bien plus et elle va se présenter. Et également, donc, Patrick Lecalier, qui est professeur en informatique à l'Université de Nantes. Alors, qu'est-ce que le PEPRIK? Alors, ce n'est pas un financeur. Bon, ce n'est pas juste un financeur. C'est vraiment un projet porté par le CNRS. Et un projet porté par le CNRS et représente le volet recherche, en fait, de la stratégie nationale d'accélération dédiée aux industries culturelles et créatives. Sa mission, vraiment, c'est de ne pas travailler sur les industries culturelles et créatives, mais vraiment avec et pour les professionnels des industries culturelles et créatives, pour favoriser l'innovation et accompagner leur développement. Il est piloté par Solveig Serre, Valérie Kerjoli, qui sont tous deux donc, directrices et directeurs de recherche au CNRS, Solveig, représentant les sciences humaines et sociales, et David, les sciences de l'informatique. L'idée, en fait, c'est à chaque fois de mettre en relation une personne en informatique, un chercheur en informatique, un chercheur en sciences humaines et sociales et des professionnels. C'est vraiment l'objectif du PEPR. Il y a deux partenaires qui sont associés au projet, donc Equipex Continuum, qui regroupe une trentaine de plateformes de très haute technologie pour mettre à disposition ce projet. Et l'infrastructure humanine qui s'occupe des données et métadonnées en sciences humaines et sociales et qui s'ouvre aux industries culturelles et créatives. Alors ce programme, il s'inscrit dans la durée, il a commencé à l'automne 2024, mais on est à tout début. Et donc sur une durée donc, de 6 ans et un budget pour l'instant estimé à 25 millions d'euros. Voilà. Alors, il est composé de 7 projets, un projet structurant et 6 projets thématiques. Le projet structurant s'appelle l'ICAR Lab, donc c'est comme ça qu'on le dénomme. Il est organisé par grands secteurs et couvre 10 secteurs des industries culturelles et créatives, comme vous avez ici. Donc, bien entendu, l'audiovisuel, mais aussi les jeux vidéo, l'édition, le design, les arts visuels. Bon, je ne vais pas tous les citer, là. Et jusqu'aux âmes vives. Donc, le deuxième, les 6 projets thématiques, dont ce qu'on appelle également les projets ciblés, en fait, s'articulent autour de 6 enjeux, donc des industries culturelles et créatives. Donc, il y a le projet Harmonie qui correspond à toute la problématique sur la création, la diffusion et la production à l'ère de l'intelligence artificielle. Thémis qui porte en fait sur toucher les publics. Également DELAN, donc comme son nom l'indique, porte sur les alternatives culturelles et créatives. Et puis on a deux projets, un plutôt sciences humaines et sociales et l'autre plutôt techniques et sciences cognitives qui portent sur les technologies immersives. Ce qu'on appelait avant le métavers, mais je suis pas sûre que le la dénomination soit encore trop d'actualité. Donc la vocation de ce projet, elle est multiple. Vraiment, pour nous, c'est, comme en tant que coordinateur du secteur visuel, c'est constituer un espace de rencontre, de dialogue, vraiment important entre les communautés de recherche et les professionnels. Pour créer, nous, ce qu'on appelle des frictions créatrices, parce qu'en fait, on n'est pas toujours d'accord, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait émerger la science. Et ça aboutit, en fait, l'idée, c'est que ça aboutisse à des collaborations qui, ensuite, pourront être soutenues financièrement par le projet. Autre objectif, donc au fil des rencontres que nous organisons, l'idée c'est de faire émerger aussi une cartographie des acteurs, donc de la recherche et des professionnels. Et pour cela a été créée une plateforme que je vous montrerai à la fin de cette présentation, qui s'appelle Ariane, avec l'idée de faciliter les synergies, donc parvenir à mieux se repérer pour favoriser en fait les échanges. Et il s'agit également de renforcer donc, ce qu'on appelle la science avec et pour l'ESCC, donc ce qu'on a appelé un peu avec humour, la démarche SAPI. Donc pour atteindre ces objectifs, il y a 5 types d'actions qui sont envisagées. L'animation des communautés par des journées d'accélération comme celle d'aujourd'hui. Tout secteur confondu, il faut bien comprendre que à l'heure actuelle, on a quand même une soixantaine de journées comme celle-ci qui sont organisées par an. La mise à disposition de financement par ce qu'on appelle des appels à petits projets. Alors, aussi au sens de l'aider léger à rédiger, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est 4-5 pages pour un montant maximum de 20 000 euros. Des fonds également pour financer des accompagnements et des contrats doctoraux. Et un appel à manifestation d'intérêt, donc sur des plus grands projets qui, on espère, sera lancé. Mais là, on a encore un peu une incertitude. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est en son bail. Donc, je veux pas être plus longue. Donc, pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter le site du PEPRUTA. Et surtout, je vous invite à vous identifier sur la plateforme Ariane. Donc, il suffit de mettre ses coordonnées, sa fonction, et ça génère automatiquement donc une carte qui nous permet de vous identifier, de vous repérer. Et ce qui nous permettra, on espère vraiment fortement, favoriser les collaborations futures. Voilà. Je vous remercie. Et je vais maintenant passer la parole à Géraldine.
L'inscription sur la plateforme, c'est aussi ce qui va vous permettre de recevoir les informations sur l'actualité, toutes les activités qui sont réalisées par le secteur audiovisuel. La journée qui nous réunit aujourd'hui, c'est la 5e journée de travaux avec et sur le secteur audiovisuel de cette année 2021-2025. On va définir l'audiovisuel comme étant toutes les industries, programmes, et dans l'industrie, j'inclus artisanat, qui utilisent l'image animée et le son. On s'intéresse au secteur historique que sont la radio, la télévision, le cinéma, mais on entend aussi penser la création de contenu sur les nouveaux, dans les nouveaux formats et sur les nouveaux territoires, bien sûr, les plateformes, les réseaux sociaux. Et on est en ce sens assez raccord, je pense, avec la vision de la notre rôle, donc, comme Stéphanie l'a dit, notre rôle à nous, co-organisateurs, co-facilitateurs au sein de l'ICAR Lab, c'est donc de créer des conditions de rencontre entre les communautés scientifiques, les acteurs culturels et créatifs, autour des enjeux propres du secteur audiovisuel. Et pour construire cette programmation de rencontres, comme là c'était la première année où le programme se montait, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, un appel à proposition si vous voulez, qui nous a permis en effet d'identifier des lieux où se fait la recherche, des lieux où commençaient à émerger des projets. Et on a reçu en effet 24 propositions de journée, on en a sélectionné 4 parmi ces 24. Et donc c'est pour cette première année, on a nourri cette programmation de rencontres avec ces propositions. Et une fois de plus, l'enjeu c'est de faire émerger une cartographie des recherches qui se font à l'heure actuelle avec et pour le secteur audiovisuel, aussi pour identifier ce qui ne se fait pas encore et ce sur quoi on doit travailler et ce qu'on doit aussi faire émerger. Voilà. On a identifié pour notre secteur 5 grands enjeux qui nous paraissent assez incontournables et sur lesquels on voudrait vraiment construire d'autres propositions de rencontres. D'abord, un enjeu démocratique et sociétal, je sais comment représenter la diversité sociale, la diversité territoriale, garantir l'expression pluraliste de courants de pensée et d'opinion dans un contexte de concentration des médias et d'un certain nombre de menaces sur la diversité d'expression, on va dire, avec aussi une réflexion sur ce qui va être l'économie de l'attention, l'empreinte cognitive des écrans, sur laquelle on fera certainement des propositions en compte l'année prochaine. L'enjeu aussi d'indépendance culturelle et de rayonnement international, comment valoriser à l'international les producteurs, les industries nationales, mais aussi développer des technologies qui soient souveraines, qui soient sûres, et garantir des relations équilibrées avec des plateformes qui émergent souvent à l'étranger. Troisième enjeu, c'est celui de la viabilité économique, quelle évolution des modèles économiques, quelle répartition de la valeur et des métiers, voilà, et c'est évidemment des enjeux qui sont cruciaux pour les professionnels. Un enjeu de développement durable, il faut accélérer la transition écologique du secteur, encourager la sobriété. Et enfin, un enjeu un peu transverse technologique d'accompagner la transformation numérique, d'encadrer, d'accompagner les usages de l'intelligence artificielle, notamment générative. Voilà, ça, ce sont les cinq grands enjeux. Et si vous êtes porteur de propositions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour construire ensemble des propositions. Alors, pour finir, je voudrais juste vous dire un mot des quelques journées qu'on a déjà vues cette année pour vous donner une idée du thème qu'on peut traiter ensemble. On a fait notre journée de lancement en novembre dernier sur une thématique assez générale qui s'intitulait « Demain, quel audiovisuel ?» justement pour balayer un petit peu l'ensemble de ces enjeux à Nantes dans le quartier de la création. On s'est retrouvés là-bas. On a fait une deuxième journée qui s'appelait « Le son du futur » à l'IRCAM. Une troisième, c'était les rencontres Creative Machine dans lesquelles on a travaillé sur les usages de l'IAG, l'intelligence artificielle générative, notamment dans les secteurs de l'animation et du jeu vidéo, et une journée en juin à l'Université Paris 8 sur la production légère et la sobriété économique. Donc vous voyez qu'avec cette dernière journée aujourd'hui sur le documentaire et ses métadonnées et surtout les enjeux de décorabilité qui nous intéressent forcément, on a déjà balayé un certain nombre de sujets. En tout cas, on est frappé nous par le fait que le secteur audiovisuel, la filière audiovisuelle est déjà très structurée, organise elle-même des réflexions, des rencontres, etc. Mais que peut-être l'apport des sciences humaines et sociales à ces réflexions n'est pas encore assez organisé, pas encore assez structuré, pas assez visible. Et il y a un véritable enjeu à faire que les chercheurs en sciences humaines et sociales puissent aussi contribuer à la réflexion sur ces enjeux. Voilà.
Bien. Bonjour à tous, je vais être rapide, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Je remercie bien entendu la SCAM, mais chaleureusement Rémi Lenné et Christina Compadonio d'avoir fait confiance à cette journée, parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Je remercie bien sûr le PEPR ITER et les facilitatrices ici présentes d'avoir cru à ce programme. J'ai voulu un petit comité pour qu'on soit dans une journée où on va pratiquer dès cet après-midi. Donc, les communications de ce matin, on vertue un peu à s'acculturer ensemble de la problématique. Il n'y a a priori que des personnes concernées. On est dans une journée très ciblée. L'enjeu pour moi, c'est de concrétiser plusieurs années de travail sur cette question des métadonnées et des films documentaires, plus largement sur les enjeux de médiation et de design des expériences utilisateurs des plateformes. C'est à mon sens une recherche action qui permet d'interroger ce que j'appelle l'angle mort de la filière documentaire, c'est-à-dire qu'aucune institution, ni marché, ni festival en fait, ne s'empare de ces questions-là, c'est pas dans le spectre naturel de ces différentes organisations. D'où l'intérêt d'une journée comme celle-ci, qui permet de réunir professionnels et chercheurs, sur une question qui me semble, ça a été dit, mais je vais souligner, essentielle du point de vue de la politique culturelle, on ne peut pas parler de décorabilité, la variété de la production francophone, c'est, ne s'intéresse pas à la manière socio-technique de la mettre en valeur sur les plateformes. C'est évidemment des enjeux de monétisation pour l'ensemble des ayants droit, pour l'ensemble de la filière de documentaire de création. Pour mieux aborder cette question complexe, donc moi j'ai souhaité découper ces journées en deux temps. Mes collègues ont présenté ce matin préciser de quoi on parle exactement, parce qu'on parle de métadonnées, cette notion des probabilités, je vais essayer de les définir, de l'adapter au contexte circonscrit du documentaire. Et vous aurez des interventions de professionnels et de chercheurs précises, aussi précises que possible, sur la question de la collecte de la donnée, de la fabrique de la métadonnée, comment ces données peuvent devenir interopérables entre les plateformes. Afin de pouvoir expérimenter ensemble cet après-midi en petits groupes une nouvelle manière d'indexer les films, grâce au catalogue que vous avez eu à l'entrée. Vous avez donc une proposition de typologie qui a été conçue par un groupe de travail que je vous présenterai, avec un corpus de 285 films documentaires qui sont des exemples concrets pour illustrer ces 27 catégories et qu'on va s'amuser, on va dire joyeusement, mais convivial, studieuse et appliquée, à mettre en frise, à mettre en pratique cet après-midi de 2h à 4h, 4h30, ensemble, pour voir ce que vous avez à en dire de ces catégories qui ont été fabriquées. Mais je vous souhaite une journée studieuse et conviviale. Je vous dis à tout de suite.
Alors, bonjour, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Rasmanjas, journaliste indépendant. Je vais charger de présenter tous les intervenants de ces quatre panels. Donc, le monde du documentaire, il est connu pour prendre son temps. Donc, il a fait sa réputation, parce qu'on a une bonne demi-heure de retard sur le programme. Ce n'est pas sûrement pas un problème, une critique. Seulement, dans un mobilier, on s'était dit qu'entre chaque prise de parole, vous aurez la salle, vous aurez la possibilité de poser des questions. Ce sera toujours le cas, mais à la fin des quatre prises de parole, ce sera plus pratique. Donc,